Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons cuisine aujourd'hui avec tout le patrimoine du continent africain. Comment parfumer ces plats avec des plantes aromatiques ? Persil, coriandre, mesceps, sorte de basilic sauvage, citronnelle, hibiscus, gingembre, feuilles d'oseille, feuilles de moringa, des plantes fraîches ou séchées, plus accessibles que les épices, cultivées dans un pot au fond de la cour ou conservées dans un bocal. Quelles sont les meilleures associations? Comment elles peuvent transformer vos plats, surtout? On attend vos recettes et vos astuces, les voisines et les voisins. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission sur le WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Des plantes qu'on utilise en marinade, avant la cuisson, pendant la cuisson ou pour couronner un plat au moment de servir. Vous allez avoir aussi tous les conseils de nos chefs. Avec moi, évidemment, Anto Cocagne. Bonjour, Anto.
Bonjour, Emmanuel.
Le chef Anto, chef à domicile, qui a publié Goût d'Afrique chez Mango Édition. Vous revenez d'un voyage au Cameroun.
Exactement. Et je dis que le Cameroun, franchement, vous ne faites pas assez de bruit sur votre cuisine parce que c'était vraiment top.
Ah ouais, c'était top. Et c'est une Gabonaise qui parle.
Oui, c'est une Gabonaise qui parle.
Bon, vous avez été ébloui.
J'ai été éblouie et surtout de me rendre compte que quelle que soit la ville, qu'on soit dans le centre, qu'on soit à l'ouest, qu'on soit sur le littoral, la cuisine est vraiment très diversifiée. Ils valorisent vraiment les épices locales et les herbes aromatiques. C'est là-bas vraiment que j'en ai vraiment découvert énormément.
C'est-à-dire qu'on ne vous a jamais sorti de cube ?
Jamais. Jamais on ne m'a sorti le cube au Cameroun.
Bon, les Camerounais, vous avez entendu le message d'Anto, vous ne faites pas assez de bruit sur vos marmites, sur vos cuisines, sur vos recettes, sur votre tradition culinaire. Alors appelez-nous au 33 7 64 45 51 41 avec nous également. Christian Abégan, bonjour,
bonjour
Christian.
Bonjour Emmanuel, bonjour Anto.
Ambassadeur des cuisines africaines, chef cuisinier camerounais. Ça, vous êtes heureux là.
Et non, totalement. Mais elle n'est pas très loin. Pour moi, j'ai toujours pris Anto pour une Camerounaise. Donc franchement...
Alors vous avez signé une gigantesque anthologie, le patrimoine culinaire africain chez Michel Lafon. Vous avez aussi créé la marque IO, une collection de mélanges d'épices africaines. Et vous revenez de Kinshasa.
Kinshasa la belle, la RDC, qui en fait, il faut bien se dire, c'est quand même le deuxième poumon après l'Amazonie. Hein. Donc ces endroits où on garde une certaine traditionnalité culinaire, où on utilise un magma d'épices et on consomme un peu moins de viande, mais plus de produits pour la santé, comme des chenilles, par exemple.
Et avec nous également, Marlène Agbaoungba. Bonjour Marlène.
Bonjour,
vous êtes d'origine béninoise.
Béninoise,
vous,
voilà. Donc vous avez grandi au Gabon, grandi au Gabon.
Alors,
j'en veux un peu à Anto pour tout ce qu'elle a dit.
Mais alors vous, quelle est la cuisine de votre cœur?
J'avoue, la cuisine béninoise quand même. C'est la cuisine béninoise. Il y a pas mal de plats, de similitudes avec pas mal de plats... Nigérian, togolais. Donc, on est vraiment au milieu de pas mal de cultures culinaires.
Oui. Mais enfin bon, nous, on n'est pas chez Radio Foot International. On ne va pas faire une bataille de nations. On ne va pas faire un match. Hein. Tout se mélange, tout se croise, tout se métisse. Vous avez créé la marque Anya Health, qui est une boutique spécialisée dans les saveurs végétales africaines.
Exactement.
Et donc, évidemment, vous allez en fin d'émission nous livrer des recettes, hein, les
Bien
chefs.
Sûr.
En fin d'émission aussi, un reportage au plus près de la terre, au Bénin, portrait d'un paysan converti à l'agroécologie dans la vallée de la Soutite. C'est tout près de Cotonou, vous connaissez Marlène.
Ah, tout à fait.
Voilà, une vallée préservée pour le moment. Et donc les voisines et les voisins, on attend vos appels surtout très très vite au 33 7 64 45 51 41. Comment parfumer ces plats avec des plantes aromatiques? Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Kadija, Ouagadougou, Burkina, moi je suis très persil. J'en mets dans tous mes plats, les sauces, les ragoûts, les crudités, les marinades pour les viandes et les poissons. J'aime la note végétale, le parfum du persil aussi qui relève mes plats. Et je le rajoute en fin de cuisson. Le persil n'aime pas trop la cuisson ou pas? Anto?
Sur une marinade ou sur... ça dépend, pas trop. Mais on peut l'utiliser avant, pendant et après, je pense. Hein.
Si, tout à fait. Il faut savoir que c'est une herbe aromatique qui est riche en fer aussi. Ouais. Pour ceux qui ont des carences en fer, c'est très bon.
C'est une herbe qui est une plante qui est facile, hein, qui ne se détruit pas avec la cuisson. Globalement, c'est quand même une plante passe-partout, le persil. Elle dit aussi qu'elle utilise aussi du basilic pour les salades et les crudités. Je le mets aussi dans des infusions, le basilic qui, lui, supporte mal la cuisson. Je ne me trompe pas, Christian ?
Ça dépend. Il y a des basiliques sauvages qui sont très, très concentrés. On peut garder une certaine valeur pour cela. Et puis, il ne faut pas oublier que certains plats, certaines préparations nécessitent l'utilisation du basilic à cru. Quand on veut faire une pesto, on a besoin que le basilic ne soit pas cuit, par exemple. Bon, mais ça peut rentrer dans une préparation cuite.
Les plantes aromatiques, vous allez voir les voisines et les voisins, ce n'est pas si simple. Hein. Kwamu et Yaoundé, j'utilise une plante qu'on appelle dans notre jargon le mesep. On dit aussi le masep. Hein. Je crois qu'il y a deux prononciations. Ça ressemble à... Il nous dit à la menthe.
Beaucoup disent menthe sauvage.
Ouais, mais c'est plutôt du basilic sauvage. Hein.
C'est un basilic sauvage. Ouais. C'est un basilic sauvage.
Donc il dit, il suffit de rajouter dans la sauce une tige feuillue de cette plante pour apprécier après cuisson son arôme puissant. Rien qu'à y penser, nous dit Kwamu, mon palais brûle d'appétence. Jocelyn est à Kinshasa. Moi, c'est le mazoulou. Je ne sais pas si chez vous ça existe. Sorte de basilic ?
Oui, c'est toujours... Parce qu'en fait, certaines plantes qui sont dans les régions humides, on peut les retrouver un peu sur le Gabon, sur le Cameroun, sur la RDC. Quand il y a toutes ces forêts humides, c'est à peu près les mêmes plantes qu'on a. On peut les retrouver en forêt aussi.
Sauf que le basilic...
Le problème, c'est qu'ils disent basilic pour tout.
Mais
à l'odeur, c'est pas le basilic.
C'est pas du basilic.
Exactement.
Voilà.
Et le basilic, lui, ne supporte pas l'humidité, hein, surtout. Attention. On l'utilise pour cuisiner les courges. Ce mazoulou, nous dit Jocelyn, la viande de poule et parfois de porc. Il y a aussi le Dembi, sorte de ciboulette, le matungu maniguette en français, sorte de faux poivre. Quand on dit que les plantes peuvent remplacer les épices, hein, plante vivace, donc qui produit une gousse brune et qui contient de nombreuses petites graines et qui appartient à la même famille botanique que le gingembre. Emeric est également en RDC, mais à Lubumbashi, chez nous, on a une herbe qu'on appelle dizoudi.
C'est des noms locaux en fait.
Locaux. Alors là aussi, ça ressemblerait peut-être vaguement à du basilic. Et puis aussi la prestigieuse herbe utilisée dans toutes les cultures d'ici, nommée Lumba Lumba.
Oui. Mais c'est il y a vraiment, comme je vous dis, une traditionnalité. Quand vous les voyez, quand vous allez sur le marché, vous reconnaissez les herbes. Vous reconnaissez ces herbes. Elles sont vraiment présentes.
Aussi,
et à l'odeur
aussi. Il suffit de frotter un tout petit peu.
On les reconnaît.
Sauf que les noms changent partout.
Hein, exactement.
D'une région à une autre et évidemment d'un pays à l'autre. C'est pas facile d'y retrouver son latin. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On parle des plantes aromatiques pour révolutionner tous vos plats. Appelez-nous.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Est-ce que l'Afrique, Christian Abégan, est un continent qui aime autant les plantes aromatiques que l'Asie ?
Mais absolument. On a toujours travaillé, cuisiné avec ces plantes aromatiques pour en faire des huiles essentielles, pour un peu.
Et dans la cuisine.
Dans la cuisine, beaucoup, beaucoup. Vous savez qu'il y a au départ, c'était simplement le sel qui était l'exhausteur de goût, et on utilisait donc ces plantes aromatiques juste pour habiller tout ce qu'on pouvait essayer de mettre, comme pour les plats, les papillotes extrêmement bonnes qu'on a en RDC et puis l'autre à Brazzaville, les libouquets qu'ils font, et même qu'on a aussi, on en fait au Gabon,
oui, au
Cameroun,
le Ndomba.
Donc forcément, c'était des cuissons dont on allait tout faire. Il y a quelques feuilles dedans, du sel, et puis on avait la véritable saveur des produits, des produits qui étaient à l'intérieur.
Ces plantes, elles peuvent jouer vraiment un rôle d'épice ou pas, selon vous, Anto ?
C'est pas qu'elles peuvent jouer un rôle d'épice, mais en fait, comme elles ont un arôme très prononcé, elles parfument vraiment. Elles parfument vraiment, et on n'a pas besoin souvent de mettre des épices en plus parce qu'elles parfument. Je sais que je vous disais, je revenais du Cameroun, on m'a montré comment on fait les chenilles. Et qu'est-ce que la dame, elle a mis ? Elle a mis le mesep et une autre feuille qu'on dit basilic aussi, qui s'appelle le coty, avec du sel C'est tout. Et ces deux herbes aromatiques ont fait le jeu. Il n'y avait pas besoin de rajouter autre chose.
Et oui, c'est le « et c'est tout » qui est très important dans ce que vous avez dit, Anto. Parce que, Christian Abégan, avant qu'on commence le direct, vous m'avez dit « moi, j'ai un coup de gueule à pousser. Il faut arrêter de tout jeter dans la marmite comme ça, n'importe comment, et de tout mélanger, des choses qui ne se mélangent pas forcément. »
Oui, parce que les marmites peuvent devenir quand même des poubelles pour la santé. Hein. Si on fait pas attention, il est nécessaire de pouvoir trier, de choisir. Et puis, pour pouvoir ne pas garder certains... Anto a dit tout à l'heure, elle a mis deux épices. Voilà. Il ne faut pas aller à plus de trois pour pouvoir essayer de garder une structure dans un plat.
Maximum trois herbes.
Oui, absolument. Parce que si... Oui, il y a des plats qui ont quatre ou cinq, parce qu'il y a des plats quand même qui ont une histoire avec dont des épices et tout ça. Mais pour les garnitures aromatiques au niveau d'herbes, il faut vraiment éviter d'en mettre... je pense que l'expérience que chaque personne peut avoir sur le marché, quand vous allez trouver les herbes qui sont beaucoup plus parfumées, c'est pour des fois des pièces de gibier ou de viande, etc. Oui. Et les plus légères vont aller sur les poissons, les crustacés, et tout, etc. Donc, à ce moment-là, chacun doit aussi aller vers la rencontre de découvrir dans cela. Soi-même, parce qu'on se dit, on met ça, mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi changer dans des pièces. C'est quelque chose d'herbe aromatique, c'est quelque chose qui est quand même aussi personnel par rapport à ça. C'est une relation de la personne qui cuisine aussi, de trouver ce qui correspond, même s'il y a la recette aussi qui est établie par rapport à ça.
Oui, et sa propre lecture des plantes aromatiques. Marlène Agbagumba, vous êtes d'accord avec ça? Maximum trois plantes aromatiques pour un plat?
Tout à fait, parce que même une seule peut déjà faire son effet. Moi, j'ai par exemple mes souvenirs, je pense à la feuille d'oseille, qui peut être une herbe aromatique. Parce que je sais qu'au Gabon, on en fait une sauce, la sauce oseille, où on la mélange avec la sauce, voilà, ou la sauce aubergine. On met de l'oseille dans l'aubergine et on en fait une sauce. Et je sais que aussi ma mère en mettait dans le tchèp blanc quand elle le faisait. Elle prenait de l'oseille, elle écrasait, mettait un petit peu parfois dans le poisson ou même dans la sauce. Donc une seule feuille, une seule herbe aromatique peut faire tout le travail de par la teneur de son arôme. Ou parfois elle peut même être trop forte quand on en met une quantité assez...
Ça peut tuer un plat?
Parfois, oui. Parfois. Alors, ou un mélange peut tuer un plat.
Vous avez grandi à la maison aussi avec des herbes très européennes, comme le laurier, enfin des herbes qui sont en tout cas cultivables sous nos climats en Europe, comme le laurier, le thym, le romarin. Mais ça, c'est pas si courant finalement en Afrique ou pas?
Maintenant, oui. On va dire que j'ai grandi dans une famille assez, on va dire, occidentalisée, mère juriste, père professeur, et ont fait leurs études à l'extérieur. Donc, ils avaient déjà cette culture de, on va dire, d'arômes de cuisine du monde.
Oui,
on va dire
c'est ça,
comme ça.
Rien n'était...
Donc, parfois, les plats locaux, on ajoutait des épices ou des herbes aromatiques d'ailleurs. Donc, c'est vrai que dans la cuisine, il y avait toujours vraiment plein d'épices, mais on revenait toujours... l'herbe, comme vous disiez tout à l'heure, on a toujours un petit potager où il y a de la citronnelle qui pousse.
Oui, il n'y a pas besoin d'avoir une vraie parcelle. Dans des pots, on peut avoir ça très facilement.
Très facilement. Donc, on coupe quelques tiges et on en rajoute.
Et c'est vrai que ça coûte moins cher que les épices aussi.
Sûr, c'est sûr.
Si on les a moins dans la cour. Et surtout, on sait comment ça pousse.
C'est sûr.
À quoi vous faites allusion, Anto? Je ne comprends pas.
Aujourd'hui, de plus en plus, on utilise beaucoup d'engrais maintenant, malheureusement, sur le continent, et des engrais qui sont interdits même en Europe. Et ces engrais-là font du mal à nos cultures et aussi à notre santé.
Un message d'Ilad à Lomé. Je me fais des boissons à la citronnelle, je fais bouillir des feuilles dans de l'eau, puis je rajoute du lait et du sucre et j'accompagne de pain. Un délice.
Absolument, c'est de la créativité de pouvoir avoir aussi des éléments. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes aussi qui sont diurétiques, qui aident à l'élimination donc des toxines.
Oui, il ne faut pas oublier que les plantes aromatiques, au départ, ont une fonction médicinale, mais partout dans le monde.
Bien sûr.
En réalité, dans toutes les cultures.
Surtout que nous, on a encore cette notion de « je mange pour me soigner ». Il y a encore cette notion où on se dit « si on a telle maladie, il faut manger tel plat. Si on a tel... dysfonctionnement, il faut s'orienter vers tel plat. » Donc oui.
Il y a tout de même des plantes ou des feuilles, je dirais, qu'on n'utilise plus beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'on les a oubliées? Je pense à des feuilles de citronnier. Vous citiez les feuilles d'oseille, les feuilles de moringa, des choses comme ça.
Le souci, à mon avis, c'est qu'on est en train d'éliminer au fur et à mesure les feuilles, les plantes les plus amères. Parce qu'effectivement, la tendance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fruité, plus sucré et plus... Parce que
C'est pour le moringa que vous dites ça parce que
Non,
c'est
même sur d'autres feuilles aromatiques, ou même des feuilles même à consommer, on n'aime pas trop consommer les feuilles très amères. Quand on mange sauce aux feuilles amères, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement culturel, comme elle a dit Anto, qu'on mangeait souvent, par exemple, nous, il y a des indolets très amères, quand les gens étaient malades, on leur faisait donc cela. J'ai goûté à des feuilles qu'il y avait, que les gorilles mangeaient au parc de Virunga, vers le Rwanda, c'était des feuilles d'une amertume de 1 à 7. Et on se rendait compte que forcément, nous perdons en qualité quand même de ces produits parce qu'on les élimine au fur et à mesure, parce qu'on s'est dit non, on ne saura pas les utiliser. Mais ça a toujours été quelque chose sur l'échelle du goût, sucré, salé, l'amer et tout. Mais tout ce qui est amer, les gens l'éloignent au fur et à mesure et éloignent tous les éléments comme certaines feuilles. Il y a beaucoup de feuilles aromatiques.
Ouais, hein. Ouais. Alors, il y a des feuilles aromatiques qui vont parfumer mais qui ne se mangent pas. Je pense au laurier qui pousse surtout en Europe, hein, me semble-t-il, mais en tout cas qui n'a pas besoin de chaleur, d'humidité, de beaucoup de soleil. Mais aussi les feuilles de citronnier qui ne se mangent pas et qui parfument énormément.
C'est juste pour parfumer, ces feuilles-là.
L'hibiscus, Marlène.
Pour mes plats salés, pas vraiment. Je n'arrive pas à me projeter en plat salé avec les feuilles d'hibiscus, les fleurs d'hibiscus. Mais dans tout ce qui est maintenant les cocktails, la dernière fois, j'ai fait un coulis de fleurs d'hibiscus pour le cheesecake.
Coulis de bissap, alors, vous diriez,
c'est ça. Pour un cheesecake, ça remplace très bien le coulis de framboise. Ouais. Donc, y a toujours
comment vous commercialisez vos plantes aromatiques séchées où les plantes sont achetées
Exact. Elles sont là, par exemple, la citronnelle, elle n'est quasiment pas achetée. Ou l'eucalyptus, par exemple, c'est des feuilles encore au Bénin ou au Burkina qui ne se vendent pas. Parce qu'on en a à profusion. Il y en a partout, donc on ne les achète carrément pas. Donc,
vous allez les ramasser.
Voilà. Oui. On les ramasse, bien sûr, dans des coins assez reculés. Il y a des gens spécifiques qui savent où aller, qui savent lutter avec les insectes, parce que c'est quand même des zones assez...
Et ensuite, c'est séché, épilé, c'est ça, vous conditionnez sous forme de poudre
Non, c'est séché là-bas à l'ombre, parce qu'ici, le séché, il fait moins de degrés là, actuellement. Donc, pour sécher, ça va être compliqué. Donc, en plus, là-bas, ils ont le savoir-faire. Je travaille avec des coopératives qui ont déjà le savoir-faire pour sécher, savoir comment sécher les plantes, parce qu'il y a des plantes qui sont séchées à l'ombre, ou à l'air libre, ou penché.
Et ensuite, vous broyez ou pas?
Oui, il y a des, comme le moringa, ça c'est pas une feuille, mais la poudre de baobab, par exemple.
Ah, ça c'est la racine qui est râpée.
Ça c'est la pulpe, la pulpe du fruit qui est séchée, puis broyée.
Puis râpée, qui donne un petit goût acide, qui sert au départ à faire des boissons, mais vous utilisez beaucoup cette poudre de baobab.
Oui, c'est très riche en vitamine C, et en fibres. Voilà,
c'est donc très intéressant dans les plats dans les pâtisseries. Donc tous les plats à base de lait, c'est très intéressant.
Ça donne une texture en plus. Hein.
Ça donne une texture crémeuse comme ça a un petit goût acidulé, c'est très intéressant lorsqu'on veut faire.
Ça permet c'est la palette des saveurs et des goûts. Hein. Quand vous avez l'amer, l'acide et tout, etc., ça permet de rééquilibrer et que vous puissiez plus apprécier les autres goûts qu'il y a. Donc,
vous avez cité les feuilles d'eucalyptus.
Oui.
Ouais, ça s'utilise.
Oui.
Ah oui, non, mais moi, attendez, je ne connaissais pas.
Pour la petite histoire, il y a ma belle-sœur qui est du Burkina Faso. Là, vous avez lu un message de quelqu'un du Burkina Faso. Elle m'a parlé d'un plat, justement, dans le cadre de cette émission, qu'ils appellent l'alo. C'est les feuilles d'oseille qui font avec de la poudre d'arachide. Moi, j'ai toujours connu l'arachide en pâte, mais eux, ils le font en poudre d'arachide et ils font avec la feuille d'oseille. Et l'oseille sert, du coup, d'herbe aromatique. Mm-hmm. Donc là-bas, elle m'a fourni les bois des feuilles d'hibiscus, d'eucalyptus, qui sont encore meilleures que les feuilles d'eucalyptus
en infusion.
Donc,
c'est quoi? C'est de l'écorce de bois d'eucalyptus?
C'est les branches des feuilles d'eucalyptus. Non, qui sont, pris telles quelles.
On peut
infuser.
Ou infuser, et ensuite on retire, évidemment. Ça ne va pas se manger dans l'assiette.
C'est ça, et on boit l'infusion qui en résulte.
Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment plein de façons d'utiliser les plantes, et aussi au cours des différentes étapes de la cuisine, c'est-à-dire dans les marinades avant la cuisson, pendant la cuisson avec les bouillons, après la cuisson. Comment vous voyez les choses, Anto?
Après, c'est en fonction de ce qu'on... Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment les jeunes générations, qui délaissent ces herbes aromatiques parce qu'ils ne savent pas comment utiliser. Mmh. Il y a encore quelques jours, les gens me disaient, mais nous, on a besoin de cours de cuisine parce qu'on ne sait pas. Mmh. On ne sait pas comment choisir, on ne sait pas comment utiliser. Et il faut savoir, il y a des herbes, comme on le disait au départ, qui sont plus faciles, qui sont moins odorantes que d'autres et qu'on peut adapter à tous les plats. Après, il faut sentir. Moi, j'ai découvert, alors je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça en cuisine, au Cameroun. On me disait odjom, mais en fait, ce sont les feuilles de gingembre que je crois on dit cablé dans certains pays d'Afrique de l'Ouest qui sont utilisées pour faire le domba, donc des papillotes, et qui vont être mis dans la papillote et qui vont parfumer. On a beaucoup la citronnelle aussi. La citronnelle, moi, je sais que ma tante, pour pouvoir attendrir la queue de bœuf, elle plongeait les morceaux dans la citronnelle et ça attendrissait la chair. Donc, nos herbes aromatiques, en fait, elles ont différentes fonctions.
Donc, en fait, elles faisaient une sorte de bouillon de citronnelle et elles plongeaient la queue de bœuf dedans.
Et après, vous avez une queue de bœuf. C'est que même si votre bœuf, il est vieux, il devient tendre, mais c'était juste incroyable. Oui. Et ça, cette connaissance-là, les jeunes générations ne les ont plus. Parce qu'ils préfèrent aller vers la facilité, des choses qui sont souvent toutes prêtes, d'où on ne sait pas. Et heureusement qu'on a aujourd'hui des marques qui font la promotion des épices, mais aussi des herbes locales pour pouvoir les remettre au goût du jour et les populariser.
Oui, parce que grâce à ces produits tout prêts, mais faits vraiment dans les traditions, comme ce que vous faites, Marlène, ça permet de redécouvrir ses goûts, ses parfums. Et ensuite, plus tard, pourquoi pas se diriger directement vers des matières brutes ou avoir quelque chose au fond de son jardin ou de sa cour. Parfumer ses plats avec des plantes aromatiques. Vous nous appelez, tiens, je crois qu'on va avoir un auditeur justement qui est au Cameroun, qui va revenir sur ces plantes dont vous parliez, l'odjom. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Les chefs aussi vont vous livrer leurs meilleures recettes parfumées dans quelques instants. Ce sera juste après l'angolaise. Pongo, c'est du kuduro, idéal pour ambiancer la cuisine.
Cantar o reggae, que é kuduro, não te serve, xé. Minha pé que tem tabaxi.
Vous écoutez RFI, on est bien chez 7 milliards de voisins et on se régale, enfin virtuellement pour le moment. Comment parfumer ces plats avec des plantes aromatiques? Nous sommes en compagnie des chefs, Chef Anto, Christian Abégan, Marlène Agbahungba. Et puis bien sûr, toutes vos questions, toutes vos participations, vos recettes, vos astuces au 33 7 64 45 51 41. Tristan nous appelle de Douala au Cameroun. Ou à Yaoundé, je ne sais pas s'il n'est pas de passage chez sa maman. Bonjour Tristan.
Oui, bonjour Emmanuel.
Eh bien, soyez le bienvenu. Alors, vous cuisinez avec des plantes aromatiques, avec des herbes, Tristan?
Oui, je vis avec des plantes aromatiques très traditionnelles,
oui,
desquelles je me suis imprégné depuis mon enfance et que je m'amuse souvent à exploiter pour créer des petits plats.
Oui. Vous, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Anto qui parlait du maseb, du jom ou de l'odjom. Qu'est-ce que vous dites, vous, odjom?
Odjom.
Odjom, exactement. Et l'odjom, c'est l'effet de gingembre. Et puis le maseb, c'est du basilic sauvage, en fait.
Ouais.
On les exploite toutes de l'herbe aromatique pour pouvoir confectionner de bons plats pour les domba et autres. Mais moi, je continue des recherches pour essayer de trouver d'autres choses qu'on peut faire avec.
Alors, le ndomba, on va peut-être redire un peu ce que c'est. Hein. C'est une sorte de ragoût, ça peut être de...
À l'étouffer.
Ouais.
Une papillote.
Ouais, on papillote. Hein.
Une petite papillote, un plat cuit dans les feuilles.
Voilà.
Mais avec des feuilles de quoi, épices. Alors, du coup?
La feuille de bananier, généralement.
Les feuilles de bananier.
Oui, il faut une feuille très grande, évidemment. Mais ça peut être avec quoi? De la chèvre, du porc, ça peut être aussi avec du poisson?
Tout à fait, oui.
Exactement.
Et l'odjom, ça ressemblerait à quoi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comme parfum Anto, vous en avez goûté, là, quand vous êtes
allé... C'est la feuille de gingembre, donc vous avez cette pointe de citronné, mais aussi de gingembre dans le parfum de la feuille, parce que c'est des feuilles longues et vertes, et c'est ça qui... Ça rappelle un peu l'essence de gingembre, mais en plus doux.
Ouais, et d'ailleurs, il me semble qu'on peut même en cultiver sous nos latitudes en Europe, climat froid, on peut obtenir la feuille, on ne peut pas réobtenir de racines, je crois que ça, ce n'est pas évident quand même.
Si, j'ai essayé sur mon balcon en été, ça a commencé à pousser, mais avec le froid, ça gelait, puisque le temps que ça monte...
Bon, la feuille, j'utilise fraîche, sèche aussi. Hein.
Oui.
Ouais. Tristan, vous avez aussi inventé une espèce de gâteau au massep, Tristan, c'est ça?
Oui, exactement. Il s'appelle carrément mes deux au massep, façon maman Hélène, en hommage à ma maman, pour qui j'ai fabriqué cela. Alors, il suffit simplement de disposer, les ingrédients, ils sont très faciles à trouver, mais on va exploiter rien que deux herbes aromatiques, à savoir l'odjom, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, et le massep.
Ouais.
Dans la basilic sauvage.
Ouais.
Une fois que nous avons ces deux herbes qui vont aromatiser notre mets d'œufs, nous disposons également de 6 œufs frais.
Ouais.
Dès qu'on a nos 6 œufs frais, notre ail haché, nos oignons hachés, notre tomate hachée également. Nous faisons un mélange de tout ça dans un grand bol où nous ajoutons un peu de poivre, un peu de sel et nous faisons tourner le tout pour que ça s'imprègne du goût du sel un peu partout et du poivre.
Uh-huh.
Une fois que c'est fait, nous hachons maintenant nos massepes, peut-être à 10 feuilles, ça dépend, en fonction du nombre de feuilles que nous allons utiliser. On hache nos 10 feuilles de massepes prêtes et on mélange également et on continue de mariner l'ensemble. Une fois que c'est mariné, nous pouvons maintenant rajouter notre odjom, 1 à 3 feuilles également, et nous cassons nos œufs frais dans tout cela, nous mélangeons et nous enfeuilletons tout ça dans les feuilles de bananier. En que temps, nous aurons mis notre marmite au feu pour avoir de l'eau en ébullition. Une fois que notre mets est attaché, vous pouvez également rajouter de la viande hachée, si ça vous dit. Vous pouvez rajouter du saucisson, si ça vous dit, en fonction du contexte de chacun.
Mm-hmm.
Mais c'est l'essentiel là-bas.
Mm-hmm.
Maintenant, une fois que notre mets est enfeuilleté, on le passe en ébullition. Il fait 10 à 20 minutes. Après les 20 minutes, vous le sortez, votre mets, il est là, mais il n'est pas encore croustillant.
Mmh. Mais
ce moment-là.
En fait, quelle est la texture que vous mettez dans la feuille de bananier? Je pose peut-être une question très naïve.
Vous parlez d'un mets de pistache, c'est ça? Ou que les œufs?
Non. Ce sont les œufs, ça.
Uniquement les œufs, hein?
Ah, c'est comme une omelette cuite à papier.
D'accord. Voilà, ça devient comme un mets, et ça a vraiment la fiche du pistache. Une fois que ce sera fini, vous aurez l'impression que c'est du pistache, mais ce n'est pas ça. Donc, on mange les œufs autrement.
Ça a l'air très très bon. Ouais. Très bravo bon Tristan, merci pour cette recette. Hein. À réécouter évidemment pour les voisins.
Nous n'avions pas fini pour dire qu'il fallait rôtir ça sur la poêle. Ça passe à la poêle. Une fois que c'est fini, vous mettez un peu d'eau sur la poêle. Sortez votre mets des feuilles. Vous faites griller ça et dorer ça, c'est très beau, c'est très bon, c'est succulent.
Donc après la cuisson à la vapeur dans la feuille de bananier, vous passez rapidement à la poêle pour que ça soit un peu doré, un petit peu croustillant.
Je pense.
Mais c'est terrible d'avoir cette recette juste avant l'heure du déjeuner.
C'est une tortilla un peu.
Merci. Merci beaucoup Tristan.
Les pommes vapeur.
Merci à vous. Très bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Tristan, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On accueille Suzanne, une chef d'origine sénégalaise qui vit à Bruxelles. Bonjour Suzanne.
Bonjour Emmanuel. Bonjour chef Anto.
Bonjour Suzanne.
Alors vous avez dit au standard que vous cuisinez vos repas, vous élaborez les repas à partir d'une plante ou d'une herbe aromatique souvent.
Oui. Moi j'aime travestir en plat et j'utilise beaucoup les herbes, les plantes aromatiques justement pour changer, pour travestir en plat, pour lui donner un goût, un autre aspect, un autre parfum. J'adore faire ça et j'utilise surtout pour me soigner. Surtout me soigner, ma famille.
Il y a plusieurs idées que vous avez données au standard. Moi, j'ai relevé mayonnaise à base de poudre de baobab, persil, coriandre, basilic. Oui. Comment vous faites cette sauce?
En fait, j'utilise la poudre de baobab et j'émulsionne comme si j'émulsionnais une mayonnaise. En fait, je mets dans un mixeur avec un peu d'eau et des herbes, et j'émulsionne avec une huile végétale. Vous avez une consistance qui est superbe.
Vous n'ajoutez pas d'œuf, contrairement à la mayonnaise?
Non.
D'accord.
Non, je ne rajoute pas d'œuf. Non.
D'accord. Et ça va vous donner une sauce qui a un peu cette consistance de mayonnaise, mais avec un petit goût forcément acidulé.
Oui, avec un léger goût de poire. En
fait. Et ça, vous l'utilisez avec quoi, cette mayonnaise de baobab?
Je l'utilise pour mes salades, je l'utilise même pour mariner une viande, un poisson, pour accompagner mes par exemple, on a les frites en Belgique.
Chef Suzanne, je suis désolée, la ligne n'est pas formidable, on va devoir vous quitter, mais il y a un autre auditeur, je crois, qui veut nous poser une question. Courcelle qui est à Yaoundé, qui veut poser une question aux chefs qui sont avec nous dans le studio. Bonjour Courcelle.
Allô, bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, on vous écoute de Yaoundé.
En fait, moi j'ai un souci, c'est que je fais beaucoup la cuisine. À la base, je suis pâtissier, mais je ne sais pas me passer des cubes en fait. Et chez moi, j'ai un petit pot à la fenêtre avec du masseur, du poireau, du gingembre, mais je ne les utilise pas parce que je ne sais pas comment faire. Donc j'aimerais vraiment me débarrasser du cube et si je peux avoir des astuces des chefs, ce serait bien.
Eh bien, ils sont là.
Il y a beaucoup d'astuces. Hein.
Mais Courcelle, vous êtes à Yaoundé même, sur place?
Oui.
Non mais attendez, vous serez en Europe, j'aurais dit bon, mais vous êtes sur place.
Non mais on n'est pas là pour chicoter les auditeurs.
Donc, bon, alors, le premier élément que Courcelle, vous allez faire, c'est de pouvoir avoir une crème d'oignon grillée. C'est-à-dire, vous prenez des oignons, 4-5 oignons, vous grillez à feu doux dans de l'huile. À feu doux, hein, quand ils sont dorés, vous écrasez cette purée d'oignon. Elle va vous donner un goût toujours feutré, légèrement sucré. C'est bon, les oignons, c'est flavonoïde et tout, etc. Vous faites pareil avec de l'ail, mais cette fois cru. Et vous avez donc toutes ces herbes. Donc je laisse Anto continuer aussi parce que
Base d'oignon, une base d'ail et les herbes rajoutées.
Oui, il faut savoir que sur le continent, souvent, on a comme base ce qu'ils appellent au Sénégal nokos, c'est cette base de pâte d'aromates. Donc, c'est souvent oignon, ail. Et après, dedans, on va rajouter des herbes. Donc, ça peut être du persil, ça peut être de la coriandre, ça peut être même des restes de légumes comme du poireau, du céleri. Qui vont vraiment... cette pâte de condiment est très goûtue et c'est ça qui va permettre d'assaisonner. Ça remplace le cube, ça remplace totalement. Après, en fonction du plat que vous allez faire, si vous utilisez, par exemple...
Mais là, il dit qu'il ne sait pas utiliser son massep, qu'il ne sait pas utiliser. Il a ça, il a ça devant
oui,
chez lui.
Donc,
dans
il
un
a
pot
déjà
de,
la
de
pâte de condiment. Ouais. Donc, avec la pâte de condiment, comme le chef Abeillon disait que c'était la base, il va utiliser, par exemple, l'odium utilisé, par
Mais
exemple, pour le poisson.
Coupé en tout donc, ciselé, tout petit.
Il peut le garder, ça dépend. Soit il le garde entier dans les papillotes ou dans les bouillons de poisson qui ça va juste infuser, parfumer. Soit il le coupe finement, en petit, pour pouvoir l'intégrer totalement dans une sauce et pouvoir manger avec. Mmh. Le mecep, ça va aussi bien pour les poissons, mais aussi pour les plats de viande. Donc, écraser ça, rajouter la pâte de condiment et après... assaisonner son plat. Mais au fur et à mesure qu'on fait, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, au fur et à mesure, il sentira, il dira, ah ben là, j'en ai mis un peu beaucoup, là, j'en ai mis un peu moins. Et c'est à lui aussi, après, de trouver son équilibre. Et lui qui est pâtissier, il peut utiliser ces herbes-là en pâtisserie.
Aussi.
Ah.
Mais c'est la question du sel aussi. Le sel est un exhausteur de goût, hein. Vous savez que juste une viande cuite à l'eau avec un peu de sel et quelques herbes, mais pas avec un feu très très fort, vous avez au bout d'une heure trente quelque chose qui est extrêmement, qui a beaucoup de goût. Quand vous avez mis des oignons, de l'ail et quelques herbes, et puis la pâte, comme le chef Antoine était en train d'expliquer. Mais non, c'est vrai que vous pouvez pas utiliser, ne pas utiliser le cube. Alors là, nous vous a donné une recette pour que vous fabriquiez votre propre cube à vous, hein.
Voilà, avec cette pâte d'oignon et d'ail. Merci à vous, Courcelles, de nous avoir appelés. Merci pour la question, parce que je pense qu'elle est utile à beaucoup d'auditeurs, de voisins et de voisines qui nous appellent. Fatoumata est à Bobo Dioulasso, au Burkina. Elle nous dit, un jour, ma petite sœur a fait du riz gras et elle a ajouté des feuilles de kumba, donc des feuilles d'aubergine verte. C'était trop bon, je vous assure. Vous utilisez ça ou pas, ces feuilles d'aubergine? Moi, je ne savais pas.
Moi, je n'ai jamais utilisé les feuilles d'aubergine.
Moi, déjà, elles sont très, très bien. Il faut aussi se dire que... tout ce qu'on fait en cuisine, c'est un peu par rapport à tout ce qu'on trouve dans les environnements. Là, on est dans une région sahélienne, on va trouver les produits qui sont donc là-bas. Quand on a plus d'herbes, plus de légumes et tout, etc., on enrichit au fur et à mesure les plats. C'est comme ça que les tchèpes étaient nés et tout. Ouais. C'était un peu comme les paellas et tous ces produits-là.
Antoko Kane, Christian Abegon, Marlène Agbangumba, vous restez avec nous. On arrive au terme de cette émission parce que maintenant, on va donner la parole à un agriculteur au Bénin, mais vous nous avez apporté des recettes qu'on va poster sur nos réseaux sociaux. Salade d'automne aux herbes sauvages pour Anto, pour Marlène Agbahumba, le sauté de gésier à la citronnelle et sa salade fraîcheur au Moringa. On va poster tout ça sur nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Bien sûr.
Reportage dans quelques instants. Portrait d'un agriculteur maraîcher béninois qui s'est converti à des techniques d'agroécologie. Ce sera juste après la tanzanienne Nandi.
Bandike nigande kagundi makuli baby nilisha nishibe kitumbo ndindi hey. Unani koleza unani chumbeza unani legeza aiwe ukianza ganda ninayaweza kandani kwenye meza suna
Yeah.
Après la cuisine et les recettes, reportage au Bénin, au plus près de la terre, dans le parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga, à la rencontre de Bob, 58 ans, maraîcher. Depuis 7 ans, Bob a fait le choix de cultiver ses terres selon les techniques de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture verte, sans intrants chimiques, respectueuse de la nature. Raphaël Constant l'a rencontré chez lui, dans le village de Zinvier, Bermuda Vert. C'est tout près de chez vous ?
Eh oui. Mon village, mon père est de Zinvier.
Ah, ça c'est formidable, Marlène. Alors, vous voyez, il fallait que vous participiez à cette émission pour entendre ce reportage. Écoutez, justement, Bob a juste un Bermuda, une chemise beige, des petites lunettes de soleil carrées et nous emmène dans son champ, juste derrière sa maison, donc à Zinvier.
Ici, nous sommes dans mon jardin. J'ai les légumineux. J'ai produit juste à côté, là, sur une grande superficie, du pastèque. Là, par exemple, c'est ce que nous appelons ça de l'oignon vert. Ça ne donne pas la boule en bas, mais c'est les feuilles là qu'on utilise pour les plats.
Pour les sauces.
Oui, oui. Des carottes rouges, blancs. Et avec tout ça là, je fais l'agroécologie. Je n'utilise pas les intrants chimiques.
Qu'est-ce qui vous a motivé à passer aux techniques agroécologiques ?
À l'époque, j'étais un des producteurs de la localité. Je produisais de l'ananas et on utilisait des engrais chimiques. Et j'étais même à l'époque le président des producteurs d'ananas, non seulement de mon village, de mon arrondissement aussi. Ça a fait que quand naissait la vallée de Sitatunga et avec Crédit ONG, ils ont reçu des stagiaires, quelqu'un qui devait présenter sa thèse sur l'ananas biologique. Ils me l'ont confié. On lui a trouvé une parcelle et il devrait pratiquer de l'urine humaine sur une parcelle. J'ai dit, l'urine, on va pratiquer ça? Je n'ai pas compris.
Ça vous a étonné?
Oui, ça m'avait beaucoup étonné. Il a fait venir des bidons de 25 et c'est l'urine de ma propre famille qu'on a commencé à lui récupérer dedans. Il nous a expliqué comment, une fois rempli et fermé, protégé après 45 jours, que ça s'utilise juste comme de l'urée chimique qu'on achète. On a dit, bon, on a fait ça. J'ai vu le développement, même mieux que ce que moi je faisais avec l'engrais chimique. Ah, j'ai dit, bon, il y a eu des formations, des séances de formation. Je me suis dit que c'est nécessaire pour protéger au moins la petite superficie que j'ai. Je peux vivre encore 20 ans, 30 ans ici. Je vais me servir de ça, je vais me nourrir ici jusqu'à mourir au moins. Et je sais que je vais manger sain.
Vous avez quelle superficie ?
Ici, ça fait jusqu'à 4 hectares. Je m'auto-suffis.
Donc vous êtes entrepreneur, vous êtes à votre compte ?
Oui, je n'ai pas fait trop d'études. J'ai le bac et je n'ai pas mis pied à l'université. Je suis rentré dans les affaires. Jusqu'aujourd'hui, on me reconnaît comme un petit revendeur dans la zone. Donc, c'est avec ces revenus que j'ai commencé à acheter de petites parcelles. J'ai commencé à produire de l'ananas à l'époque.
Alors, est-ce que je peux goûter ces fameuses pastèques ?
Oui, d'accord. Il y a les bananiers, il y a de l'avocatier. Ça, c'est le corosol. Et ça, là, avant de mettre les graines de pastèques, j'ai fait comment, les petits trous pour que j'ai mis des fientes de poulet dedans. C'est ici que j'ai récolté par exemple des pastèques hier que ma femme a amené au marché. C'est pourquoi elle n'est pas dans la maison. Donc je vais voir quelques fruits mûrs maintenant, puisqu'on ne reconnaît ça pas le bruit que ça fait.
Comment vous avez choisi la bonne pastèque, Bob ?
Quand c'est mûr, quand on tape, le bruit, ça sonne, c'est léger. Et maintenant, au goût aussi, on reconnaît. Donc, je coupe en deux, je prends ça et je mets ça en tranches.
Elle est sucrée.
Oui, c'est sucré. Donc, quand c'est comme ça, là, sans engrais chimique, c'est bien sucré, c'est rouge, mais ce n'est pas trop gros.
Elle est délicieuse, votre pastèque bio, Bob.
Je suis content. c'est comme ça que nous produisons.
Combien vous vendez une pastèque comme celle qu'on vient de goûter au marché ?
Ça dépend de la grosseur. À partir de 300 jusqu'à 500 francs.
À partir de 45 centimes d'euros à peu près.
Oui, oui, c'est ça. Mais quand il y a des fruits, des plants auxquels on a pratiqué l'engrais chimique, vous allez retrouver de gros fruits qu'ils vendent jusqu'à 1000 francs, 1500 francs, l'unité.
Un peu plus d'un euro 50 pour le même fruit, mais pas cultivé de la même façon.
Oui, pas cultivé de la même façon. Mais on est fiers parce que nous-mêmes, nous mangeons ce qui est bon et nous fournissons ce qui est bon à la population.
Et depuis que vous êtes passé aux techniques agroécologiques, vous diriez que vous avez un meilleur rendement, que vous gagnez mieux votre vie?
S'il faut dire la vérité, je ne fais pas plus de recettes, puisque dans notre zone, ils ne connaissent pas la valeur de des produits agroécologiques. Quand on met les intrants chimiques, c'est plus gros, c'est joli, et c'est ce que les gens veulent dans notre région. Et malgré que cela n'était pas trop productif, je ne trouvais pas beaucoup d'argent, j'ai persisté, j'ai continué, parce que je sais que, premièrement, mes terres seront conservées. Et c'est de ça que nous, nous vivons. Nous sommes au village, nous mangeons tout ça là, tout ça là. Donc, je sais que dans ma maison, nous mangeons sain.
Mais ça veut dire, Bob, que vous êtes prêt à faire le sacrifice de vendre moins pour préserver les sols de vos terres et donc de la vallée?
Oui, beaucoup de sacrifices, puisque pour avoir une quantité de récolte, on se peine d'abord trop. Je m'exploite parfois un peu trop. Je vieillis rapidement.
Vous voulez dire que c'est plus physique, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, c'est le mot. Puisqu'il faut mettre l'autre plan, appliquer, mettre les produits chimiques. Après 15 jours, tu vends déjà. C'est avec ceci, tu vas faire un mois et tu ne vas pas vendre autant.
Et vous avez convaincu des gens autour de vous?
Je suis comme un évangéliste. Ça se multiplie. Les producteurs, les gens que nous convaincons, c'est important parce qu'ensemble, quand nous serons nombreux, ça va faire diminuer la pollution, la dégradation de la terre. Et en protégeant cette vallée, elle sera conservée pour les générations à venir, c'est-à-dire nos enfants.
C'est un reportage de Raphaël Constant dans la vallée du Sitatunga, dans la région de Cotonou au Bénin, à proprement parler, dans le village de votre papa, Zinvié, nous disiez-vous,
oui,
Marlène Agbagbouma.
Oui, totalement. J'ai vécu, j'y allais à Zinvié, il n'y avait même pas encore... Maintenant, il n'y avait pas d'eau et de courant. C'est sur la route de Calavi, on prend... quittant Cotonou, on prend une petite rue à droite et ça me rappelle bien des souvenirs.
Ouais, et qui est une zone protégée. Vous connaissiez ces techniques agricoles, agroécologie?
La fiente de poulet, oui, mais l'urine, non.
Si. Parce que, et puis, au Bénin, ils ont beaucoup d'expériences de ce type, hein, au niveau de l'agriculture. Et ce sont des exemples quand même qui...
Notamment avec son rail, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez... qui peut se dupliquer. Parce qu'il y a d'autres pays où on a des fruits qui sont très, très gros, mais qui n'ont pas de saveur du tout, hein.
Et oui, parce que souvent, il y a trop d'eau, en fait, hein, et donc ça enlève la saveur. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois d'être venus partager vos astuces, vos techniques, vos connaissances aussi sur les plantes aromatiques. Anto Cocagne, vous publiez Goût d'Afrique chez Mango Éditions. Christian Abéguin, le patrimoine culinaire africain chez Michel Lafon. Et puis, il y a la marque Io, collection de mélanges d'épices africaines pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, voilà, des mélanges déjà tout concoctés. Et puis, Marlène Agbahumba, la marque Anya Health. Là aussi, des saveurs végétales africaines. Juste un petit exemple, peut-être?
Tout simplement, par exemple, des sirops, on a des poudres de végétaux, etc., des huiles.
Voilà.
Tout ce qui est bien-être à travers les saveurs végétales
Exactement.
Africaines.
Un peu de soleil dans votre plat.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur les enfants illégitimes. Comment se construire quand on est ignoré par son père? On les appelait autrefois des bâtards, un mot qui résume la honte de ces enfants, la culpabilité des mères aussi. Ils grandissent souvent avec cette idée diffuse que quelque chose ne colle pas dans leur famille. Et une fois devenus adultes, ces enfants illégitimes se demandent pourquoi ils n'ont pas eu le droit à la vérité sur leurs origines et un vrai père biologique. Aujourd'hui, avec les tests ADN facilement accessibles, on pourrait croire que tout est plus simple. Est-ce vraiment le cas? On en discute demain.
Sept milliards de voisins, c'est fini.